Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Mardi 7 mai, Eric Manirakiza et Raïssa Girondin en votre compagnie. Voici d'abord les titres.
Élection générale en Afrique du Sud. La population vote demain pour élire les députés et les représentants des assemblées provinciales.
Décès annoncé du religieux sénégalais Cheikh Bétio Thioune au lendemain de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés.
Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale recherche des soutiens en Europe après l'offensive du maréchal Haftar pour conquérir Tripoli.
Les États-Unis et la Chine reprennent leurs difficiles négociations commerciales à Washington.
Et dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Les Sud-Africains se rendent aux urnes demain, mercredi, pour élire les députés et les représentants des 9 assemblées provinciales. Le parti au pouvoir, l'ANC, a perdu du terrain suite à des scandales de corruption, mais devrait conserver sa majorité face à une opposition qui peine encore à convaincre. Le compte-rendu de notre correspondante Patricia Huron.
26 millions d'électeurs sud-africains doivent voter ce mercredi. Mené par le nouveau président Cyril Ramaphosa, le parti au pouvoir, l'ANC, est quasiment certain de conserver sa majorité au Parlement. Le président, qui tient son mandat des députés, sera alors assuré d'être reconduit à la tête de l'État. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a été privé de son argument majeur avec le départ de Jacob Zuma et fragilisé par des divisions internes. Le parti, qui avait obtenu 22% des votes en 2014, risque de voir sa position s'effriter. Quant à Julius Malema et son parti de la gauche radicale Les Combattants pour la Liberté Économique, il pourrait franchir la barre des 10% et s'imposer comme la force montante de la scène politique sud-africaine. Outre le nombre de voix récoltées par chaque parti, il sera aussi intéressant de voir quel sera le taux de participation lors de ce scrutin. Ce sera une bonne indication de la perception, notamment parmi les jeunes, de la capacité qu'a encore l'ANC de répondre aux attentes de la population et de la confiance en Cyril Ramaphosa. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Au Sénégal, le guide des Tiantakoun, Cheikh Bétio Thioune, est mort en France où il se faisait soigner. Décès survenu au lendemain de sa condamnation par contumace à 10 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de Mbourg. Nous sommes en direct avec notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus sur ce décès, Sédina?
Pas grand-chose pour le moment. Juste retenir qu'il était en France depuis plusieurs semaines pour se faire soigner. Malheureusement, on a annoncé son décès tout à l'heure à la suite de sa condamnation, comme vous l'avez dit, à 10 ans de travaux forcés, condamnation par contumace, suite au double meurtre de Medinato Salam, une localité du département de Mbour, dans le centre du Sénégal. C'était un double meurtre qui concernait deux de ses disciples, un nommé Barassa, l'autre nommé Ababacar Diagne. Le tribunal de grande instance de Mbour l'a donc reconnu coupable hier. Comme il bénéficiait de liberté provisoire, il avait pu se déplacer en France, à Bordeaux plus précisément, pour se soigner. Et c'est tout à l'heure que son fils a confirmé qu'il était décédé. Ce qu'il faut retenir, c'est que Cheikh Bétio a obtenu sa notoriété et son statut de guide religieux en côtoyant le 5e calife des Mourides, Serigne Saliou Mbake, les Mourides qui constituent l'une des plus fortes communautés religieuses du Sénégal. Et Cheikh Bétio également n'est pas qu'un guide religieux, c'est un diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal. Comme d'autres hauts fonctionnaires de la République, il a eu à servir jusqu'en 1996. C'est à la suite de cette date qu'il s'est consacré pleinement à la communauté Mouride. C'est donc en 2012 qu'a commencé ses déboires avec la justice. Il a été incarcéré, ensuite il a été remis provisoirement en liberté à cause de sa maladie justement. Et
merci,
c'est cette maladie qui finalement a eu raison de lui.
Merci Sédina. Faudrait confirmer. Qui a confirmé ce décès?
C'est son fils Khadim Thioune qui a confirmé ce décès. Et en ce moment même, sa famille est en train de se réunir pour sortir un communiqué.
Merci beaucoup Sédina Abagué en direct de Dakar.
On passe au Burkina Faso où une personne a été tuée et blessée la nuit dernière au cours d'une attaque djihadiste présumée à Ouaïgouya. La première contre la grande ville du nord du pays. Entre dimanche et lundi, une double attaque a visé le commissariat et la brigade territoriale de gendarmerie de Déhou, sans faire deux victimes. Hier matin, des assaillants ont enlevé un agent de santé à Bourzanga, dans la province du Bam, et emporté une ambulance chargée de médicaments.
Au Bénin, l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, craint toujours pour sa sécurité. Des blindés de l'armée et plusieurs engins de police sont postés dans les rues de Cotonou et aux alentours du domicile de M. Yayi. Dans une lettre qu'il a adressée à plusieurs chefs d'État de la sous-région, notamment Macky Sall du Sénégal et Mouamadou Bouhari du Nigeria, Boni Yayi en appelle à leur leadership pour que des dispositions soient prises en urgence pour assurer sa sécurité, celle de sa famille et des opposants. L'ancien président béninois avait appelé à boycotter les élections législative du 28 avril pour dénoncer l'absence de l'opposition.
Et dans l'est de la RDC, la mort d'un conducteur de taxi-moto après collision avec un véhicule d'une équipe de lutte contre Ebola a paralysé aujourd'hui les activités commerciales et celles de la riposte contre la maladie à Butembo.
Toujours en République démocratique du Congo, deux auteurs présumés de l'assassinat en 2017 des deux experts des Nations Unies se sont évadés de la prison centrale de Kananga dans le centre du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Mon client Évariste Ilunga Lumu et un autre co-prévenu, Tiaba Kanoa, se sont évadés cette nuit, a déclaré Maître Trésor Kabangu, avocat de l'un des prévenus. Ce matin, des tirs nourris ont été entendus dans le quartier de la prison à Kananga. D'après un témoin, les militaires qui gardent la prison ont tiré des coups de sommation en l'air pour empêcher d'autres prisonniers de s'échapper. Les autorités militaires et policières présentes sur le lieu n'ont donné aucune idée sur le nombre exact d'évadés. La Suédoise Zaida Catalan et l'Américain Michael Sharp, experts de l'ONU, ont été tués le 12 mars 2012 au Kasaï, où ils enquêtaient sur des fosses communes. Le procès de leurs assassins présumés, ouvert en juin 2017, est toujours au stade de l'instruction. 14 personnes sont poursuivies. Jeudi dernier, le tribunal militaire avait fixé la prochaine audience pour le 16 mai. Ilunga Lumu avait reconnu avoir participé au meurtre des experts onusiens et avoir mutilé l'une des victimes.
Le premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, a entamé une tournée européenne. Il a rencontré ce matin le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, sur le terrain. Le maréchal Khalifa Haftar poursuit son offensive pour conquérir Tripoli. Les précisions de John Lyndon.
Les deux hommes se sont entretenus, mais rien n'a filtré de leurs échanges. Peu avant leur rencontre, M. Conte a martelé qu'il n'y a pas de solution militaire qui pourrait garantir la stabilisation du pays et qu'elle se ferait au prix des vies humaines, des crises humanitaires. Fayez al-Sarraj doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel ce soir à Berlin, puis le président français Emmanuel Macron demain matin à Paris. Hier à New York, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont lancé un appel à un cessez-le-feu en Libye. Un appel rejeté jusqu'ici par le maréchal Khalifa Haftar. Il a ordonné à ses troupes de redoubler d'efforts pour conquérir Tripoli. D'ailleurs, ses partisans ont annoncé ce soir avoir abattu un avion de chasse des forces du gouvernement d'Union nationale au sud de Tripoli.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité à l'international, chinois et américains vont reprendre leurs négociations commerciales cette semaine. Le négociateur de Beijing, Liu He, se rendra jeudi à Washington. C'est ce qu'a annoncé le ministère chinois du commerce, Nathalie Barge.
La tenue des négociations était incertaine après la décision dimanche du président Donald Trump de relever les droits de douane sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'exportation annuelle à compter du 10 mai. Le négociateur américain Robert Lighthizer a indiqué que les nouvelles sanctions seraient effectives à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi. Augmenter les droits de douane ne réglera aucun problème, a répliqué le ministère chinois des Affaires étrangères, disant espérer que les deux parties parviendront à un accord mutuellement bénéfique. L'administration Trump compte rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays et réduire le gros déficit bilatéral de quelque 378 milliards de dollars en 2018. Outre une plus grande ouverture du marché chinois aux produits américains, elle veut aussi mettre fin au transfert forcé de technologies américaines.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
C'est l'heure de la Minitico qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, assure avoir bon espoir que le Congo-Brazzaville ait trouvé un accord avec Pékin pour restructurer sa dette, ce qui devrait lui permettre d'accéder à un programme que le conseil d'administration du FMI attend d'approuver depuis plus d'une année. Pour accorder son aide, cette institution financière exige que le Congo restructure d'abord sa dette de 2 milliards de dollars avec la Chine. L'Afrique du Sud a signé hier un contrat pour l'exploration et la production du pétrole au Soudan du Sud dans une zone de 31 000 km² appelée Bloc 2. La phase d'exploration durera 6 ans. Le Soudan du Sud a des réserves estimées à 3,5 milliards de barils, dont 30% se trouvent dans des zones déjà explorées. Il s'agit des troisièmes plus larges réserves en Afrique subsaharienne. Pour terminer, Total a conclu un contrat de 8,8 milliards de dollars avec Occidental pour acquérir les actifs de la société pétrolière américaine Anadarko en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud. La transaction devrait être finalisée en 2020. Anadarko veut annuler son accord de fusion avec Chevron qui lui offrait 33 milliards de dollars alors qu'Occidental lui propose 38 milliards de dollars. Si d'ici vendredi, Chevron ne fait pas de contre-offre ou si sa proposition révisée est rejetée, Anadarko devra payer à Chevron une indemnité de rupture de contrat de 1 milliard de dollars.
Et sans transition, nous enchaînons avec des sports. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On sera ce soir le premier qualifié de la Champions League entre Barcelone et Liverpool. Mais entre-temps, Mohamed Salah est forfait. N'est-ce pas, Yacouba?
Oui, l'attaquant égyptien est out pour la tentative de comeback de Liverpool contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Salah s'est blessé après un choc samedi en match du championnat contre Newcastle. En plus de l'égyptien, Liverpool se passe aussi du brésilien Roberto Firmino et du guinéen Naby Keita dont la saison est terminée pour cause de blessure. De leur trio d'attaque habituel, les espoirs des Reds reposent sur les épaules du Sénégalais Sadio Mané. Le club anglais avait perdu 3-0 à l'aller au Camp Nou.
Et sur le continent africain, les arbitres sont en grève au Ghana. De quoi s'agit-il, Yacouba?
Oui, les arbitres ghanéens ont décidé de boycotter à partir d'aujourd'hui les compétitions organisées par le comité de normalisation du football. Dans une correspondance adressée hier à cette instance, l'association des arbitres exige le paiement d'arriérés d'émoluments de la phase aller du championnat avant la reprise de la phase retour prévue pour cette semaine. Depuis un an, le football ghanéen est dans la tourmente avec la dénonciation d'un système de corruption qui a entraîné la démission du président de la fédération Kwesi Nyantakyi et la dissolution du bureau fédéral par la FIFA.
Retour en Europe, à Madrid plus exactement, Diego Godin annonce son départ de l'Atlético Madrid.
Oui, le capitaine de l'Atlético Madrid quitte le club après 9 saisons. Diego Godin, qui arrive en fin de contrat en juin, avait repoussé des offres l'été dernier pour prolonger à l'Atlético, mais il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le club pour un nouveau contrat. Il pourra faire ses adieux au public colchonero dimanche contre Séville au stade Metropolitano pour l'avant-dernière journée du championnat d'Espagne. Godin, qui a disputé 387 matchs sous le maillot de l'Atleti, compte à son palmarès une Liga, une Coupe du Roi et 2 Ligues Europa ainsi qu'une Copa América remportée avec son pays l'Uruguay en 2011. La presse espagnole annonce le défenseur de 33 ans à l'Inter Milan.
Enfin, l'athlétisme, le Kenya fera sans ses meilleurs marathoniens aux mondiaux.
Oui, le Kenya se présentera sans le détenteur du record du monde Eliud Kipchoge aux mondiaux d'athlétisme de Doha du 27 septembre au 6 octobre prochain. Incontestable maître de la discipline, 11 victoires en 12 marathons, Kipchoge avait déjà indiqué qu'il ne participerait pas aux mondiaux. Il prépare à la place une nouvelle tentative pour courir les 42 km en moins de 2 heures. L'équipe masculine sera menée par le champion du monde en titre Geoffrey Kirui et le double vainqueur du marathon de Paris, Paul Longyangata, une sélection qui laisse sur le carreau les 5 meilleurs Kenyans au classement mondial de la discipline. Même constat chez les femmes avec les absences de la récente vainqueur du marathon de Londres, Brigitte Kosgei, et de Viviane Chiriot, numéro 4 mondial.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Raissa Girondin, Eric Manirakidza. À la place maintenant, c'est les dossiers du jour.
Au Niger, un jour après l'explosion d'un camion-citerne à proximité de l'aéroport de Niamey, le bilan est passé à 60 morts. Les blessés sont pris en charge dans différents centres de soins. Dans leur réaction après ce drame, beaucoup de citoyens s'interrogent sur les circonstances d'une telle tragédie, mais également sur l'attitude des autorités. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Pour la majorité des citoyens interrogés, le drame de ce 6 mai 2019 est l'expression, au-delà de l'ignorance, d'une extrême pauvreté que vivent les populations.
Si ce n'est pas la pauvreté, vous ne pouvez pas trouver une famille où le père, la mère, les enfants ont tous péri dans cet incendie. Parce que c'est la veille du mois de carême. Les gens voient comment ils vont déjà trouver quoi acheter du sucre.
C'est la pauvreté, en fait, la base de cette situation. Parce que si les gens avaient le minimum, ils n'allaient pas oser aller chercher de l'essence gratuitement. Malheureusement, la pauvreté est à la base aussi de ce comportement que nous avons observé des jeunes du quartier aéroport.
Les autorités ont décidé de prendre gratuitement en charge les blessés de cette tragédie, mais les citoyens attendent beaucoup plus d'elles.
Le drame a fait beaucoup de morts, jusqu'à voir une soixantaine et plusieurs blessés. Normalement, on devrait décréter un jour de deuil, quelque chose comme ça. Certes, les autorités ont été sur place et ils ont amené les gens. Ils sont en train de prendre soin des blessés. Au moins, je crois que ça mérite un deuil.
Je ne peux pas comprendre. En France, on observe une journée de deuil à la mort de deux personnes et le président se déplace. Alors ici, c'est 60 personnes qu'on perd en 24 heures et qui n'a pas eu même l'idée de décréter cette journée.
Pour parer à de telles situations à l'avenir dans un pays désormais exportateur de pétrole, Aliou Oumarou, président d'une association de sensibilisation sur les accidents de la route, donne ces quelques conseils.
Nous devons, en matière de sécurité routière, donner des guides aux étrangers qui passent dans notre pays qui est constamment en chantier, puisque c'est en manœuvrant que ce camion citerne a été tombé. Si ces jeunes qui conduisaient avaient une maîtrise du quartier, ça n'allait pas arriver. Nos autorités, je pense, doivent prendre des mesures pour que lorsque ce genre de situation arrive, que de manière prompte, les forces de défense et de sécurité puissent sécuriser l'espace. Puisque vous le savez, le chauffeur et l'apprenti, dès qu'ils ont vu le camion tomber, ils se sont éloignés, ils se sont cherchés. Pendant que les populations, souvent ignorantes, ont accouru vers la citerne.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Algérie, l'arrestation des caciques du régime d'Abdelaziz Bouteflika continue. Après les généraux Mohamed Medien et Atman Tartag, ex-patron des services de renseignement, c'est autour de Saïd Bouteflika, frère du président déchu, en avril dernier. Quelle est la stratégie du général Gaïd Salah au pouvoir? Morgane Guiriec a joint le journaliste du HuffPost en Algérie, mardi à Ayou.
Cela semble être sa stratégie pour calmer le mouvement populaire qui dure depuis le 22 février dernier. En fait, dans ses précédents discours, il n'a pas cessé de répéter que ces arrestations répondent aux revendications des manifestants, comme quoi, en fait, les Algériens qui manifestaient appelaient à travers leurs slogans, à travers leurs pancartes, à ce que ces hommes d'affaires soient jugés. Sa stratégie pour sauver sa tête auprès des Algériens. Et ensuite, on ne sait pas s'il veut se maintenir en pause. En fait, la majorité l'accuse de vouloir forcer les Algériens à prendre part aux prochaines élections du 4 juillet. Pourtant, celles-ci sont jetées en masse par le corps électoral qui est dehors. Et au fait, Salah est accusé de vouloir régénérer le système à travers ces élections.
Il dit que ces arrestations correspondent aux revendications des manifestants. Pourtant, ils sont toujours dans la rue.
Exactement. Gaïd Salah semble avoir oublié que les principales revendications des Algériens ne sont pas les arrestations des hommes d'affaires et des personnes responsables accusées de vol de corruption. Les principales revendications, c'est de pouvoir mener une transition démocratique, libre et surtout, c'est le départ du gouvernement actuel et du chef de l'État par intérim. Une transition qui sera gérée par des hommes qui n'ont pas servi le système de Bouteflika durant ces 20 dernières années.
Et c'est pour ça que les manifestants ne sont pas pour aller aux élections.
Les Algériens refusent des élections qui seront chapeautées, qui seront supervisées par le gouvernement actuel qui ont supervisé les précédentes élections présidentielles, législatives, locales et qui ont été entachées de fraude.
Les manifestations vont-elles persister pendant le Ramadan?
J'ai bien l'impression que oui, parce qu'aujourd'hui on est mardi et c'est la journée des étudiants. Ils étaient en force ce matin. Ils ont commencé à manifester dans la capitale Alger peu après 10 heures. Et ils étaient tout aussi nombreux que d'habitude et tout aussi déterminés. D'ailleurs, c'était ça leur slogan. On ne va pas s'arrêter durant le Ramadan. On ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que ce système parte, jusqu'à ce que ce régime tombe.
Mardi Alioui, journaliste au HuffPost à Alger.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
L'armée américaine est en train de former l'armée camerounaise aux techniques des premiers secours et à l'évacuation sanitaire pour réduire le nombre de morts sur le champ de bataille. Un quart des soldats tués lors de combats auraient pu être sauvés avec de meilleurs soins. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, rendu par Lionel Gaïma.
Le soldat Pumje Amidou, 29 ans, est soigné pour de nombreuses fractures à l'hôpital militaire de Yaoundé. Il dit avoir échappé de peu à la mort en octobre dernier lorsque des combattants séparatistes ont attaqué sa base, faisant un mort et deux blessés.
Mon poussin a été attaqué depuis le 5 octobre. Ils m'ont atteint au niveau de la cuisse et à la joue. Je me sens mieux. Et on vient de recevoir le ministre de la Défense, le Béthia Soumou. Nous sommes très fiers de sa visite.
Sa vie a été sauvée lorsqu'un hélicoptère de l'armée l'a amené à l'hôpital. Mais d'autres soldats n'ont pas eu cette chance. D'après la hiérarchie militaire du Cameroun, 117 soldats sont morts de suite de blessures qui n'étaient pas fatales au départ. Cela représente près du quart de décès militaires dans les camps de bataille contre les séparatistes anglophones et les djihadistes de Boko Haram. Pour prévenir des décès évitables, des conseillers militaires américains sont en train de former des soldats camerounais à mieux soigner les blessés. Le cours sur l'évacuation médicale au Medvag comprend aussi l'évacuation aérienne de victimes connue sous le nom de Kasevac. Le major Momertz, qui n'a pas donné son prénom, est l'un des formateurs américains.
Nous avons parlé des différents niveaux de Kasevac. D'abord, vous avez vos propres jambes, vous pouvez déplacer le patient vous-même. Vous avez différentes parties du corps qu'ils peuvent encore utiliser. Assurez-vous qu'ils ne saignent pas pendant le transport.
En février, Washington a annoncé la réduction d'une partie de l'aide accordée à Yaoundé en matière de sécurité après des allégations de violations présumées des droits de l'homme par des soldats camerounais. Malgré cette réduction de l'aide militaire, les États-Unis affirment que les relations entre les deux pays sont bonnes. Le colonel Abeng Bozo, directeur de la santé militaire au Cameroun.
La coopération militaire entre les États-Unis et le Cameroun se porte très très bien. Et ça s'illustre par cette formation et par leur présence. Un militaire, aujourd'hui, doit être secouriste tactique. C'est du secourisme tactique qu'il s'agit. Utiliser le garrot, ce n'est pas un garrot simple, mais ce qu'on appelle le tourniquet tactique, qui permet d'arrêter tout de suite les saignements. Et à la fin, éviter ce que nous appelons les morts évitables.
30 militaires camerounais ont suivi cette formation. Ils devront à leur tour former leurs collègues à ces techniques pour sauver des vies humaines.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, des dirigeants du Congrès rencontrent ce mardi des responsables du ministère de la Justice pour trouver une solution à la demande des démocrates qui veulent un accès au rapport complet sur l'enquête russe. Ils menacent de voter demain à la Chambre des représentants pour exiger le document complet. Ils accusent le ministre de la Justice, William Barr, de chercher à protéger le président Donald Trump. Pour analyse, Abdurrahman Dia a joué en Virginie. L'universitaire James Caesar.
Je crois que la chose la plus importante, c'est le but d'embarrasser le président. Donc c'est un jeu politique plutôt que d'autres choses.
Mais les démocrates contrôlent certes la Chambre, mais est-ce qu'ils ont les moyens de contraindre William Barr, le ministre de la Justice, de leur donner accès au rapport complet de Robert Mueller?
Alors, je crois que non. Il peut voter comme il veut. Il peut voter en mépris pour Barr, mais on l'a fait déjà pour Holder, l'ancien ministre
sous Obama.
Obama. Et ça n'a aucun effet sur son boulot. Donc, ce n'est pas important. C'est une espèce de moyen de plaindre, mais pas d'effectuer des buts.
Mais en même temps, les démocrates contrôlent depuis novembre la Chambre des représentants. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont du mal à asseoir un peu leur autorité? Est-ce que c'est le cas?
Non, c'est un moyen, je crois, pour embarrasser le président devant l'opinion publique, pour maintenir un débat pour le public. Peut-être qu'il va essayer de faire plus, mais en fait, il ne peut pas vraiment effectuer plus que cela.
Mais ils ont tout de même le droit de savoir ce qu'il y a dans le rapport sans forcément que ce rapport ne soit expurgé de certains éléments, selon eux.
À mon avis, ils peuvent penser qu'ils ont le droit, mais il y a une loi qui gouverne ces rapports. Cette loi a été passée par un ancien congrès. Donc, selon Barr, il dit qu'il suit la loi. Cette loi est là pour protéger des choses privées et des témoins qui sont privés. Donc, selon Barr, le conflit n'est pas entre le Congrès et Barr. Le conflit est entre le Congrès et la loi qui existe. Donc, ça va devant les cours pour être décidé.
On semble assister aussi à une division au sein du camp démocrate. Hein?
Alors, il y a un conflit entre les démocrates. Comme vous disiez, c'est très important. Il y a plusieurs démocrates qui ne veulent pas continuer ce conflit. 31 ou 32 démocrates ont été élus l'année dernière, qui viennent des circonscriptions qui sont plutôt républicaines. Ils ne veulent pas continuer ce conflit. Et Nancy Pelosi, qui est le chef du Parti démocrate, c'est pas sûr c'est ce qu'elle veut faire.
L'universitaire de Virginie, James Caesar.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma, merci. Il a assuré la mise en onde. Michael Duminski était à la technique.
Raissa Girondin et Eric Manilakidza à la présentation. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellente suite des programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.